l'impression d'avoir l'eau sur la peau. Quand il pleut, ou que vous êtes à la piscine, ou dans la mer, ça doit être agréable, ça, l'eau. Il y a plein de choses dans la vie analogique comme ça que je vous envie. Moi, je peux avoir de l'eau, mais c'est de l'eau numérique. Je ne sens que les électrons sur ma peau. Mais ma peau, elle est aussi faite d'électrons. Alors, c'est pas amusant. Aujourd'hui, dans un cyberflash qui aime l'eau. Les jeux de plateforme en 3D, c'est quoi et ça apporte quoi? La musique sur ordinateur, M comme MIDI. Et une petite oldies, Barbarian. Go!
Donkey Kong Country 2 sur Super Nintendo, vous aimez? Eh bien, profitez-en car voici les dernières images d'un genre en voie de disparition. Avec l'arrivée des nouvelles consoles, les jeux de plateforme en vue de profil sont morts. Vive les jeux en trois dimensions! Lors de la sortie de la Saturn en France, le premier jeu d'action, Clockwork Knight, était un jeu de plateforme qui utilisait les effets 3D. Si, regardez bien les décors, là, derrière le personnage principal. Et pour mieux vous convaincre, Sega a même sorti une suite, Clockwork Knight 2, qui vous permet de sauter du premier plan vers l'arrière en utilisant la notion de profondeur. Mais j'en vois au fond qui doute. Pas de problème, Sega a tout prévu avec Bug, qui est là pour vous prouver que les jeux de plateforme 3D permettent une plus grande liberté de mouvement, bien que dans le cas présent, Bug puisse aller et venir en utilisant la profondeur, mais selon des chemins précis. La PlayStation remédie à cela avec Jumping Flash, dans lequel vous guidez un lapin droïde qui saute partout dans les airs. Tenez, quand il voit une carotte, il peut même sauter deux fois de suite pour monter plus haut. Ce jeu joue sur la profondeur, comme dans Bug, mais votre liberté de mouvement est totale. Voilà la grande nouveauté des jeux de plateforme 3D. Terminez la vue de profil restrictive, bonjour les grands espaces. Vous voulez aller chercher un objet là-bas, à droite? Allez-y, pas de problème. Vous voulez grimper tout en haut, petit lapin que vous êtes, un bond dans les airs et c'est fait. Oula, ça fait mal au cœur. Et ça donne le vertige. De plus, un jeu en 3D nécessite toujours un temps d'adaptation plus long, pour bien contrôler l'espace. Mais ces petits désagréments ne sont rien face au formidable avantage apporté par le réalisme. Sur 32 bits, nul doute que les jeux en vue de profil du style Gunner's Haven ou Rapid Reload sont aujourd'hui obsolètes. Quant à la Nintendo 64, that is the question. À en juger les premières images, le Mario 64 est toujours d'actualité. Mais rien ne nous dit que cette nouvelle version 3D, très attendue, surpassera les précédentes versions sur 16 bits et surtout contentera le joueur. Aujourd'hui, le nouvel argument de vente, c'est la 3D. Mais qu'on ne nous raconte pas d'histoire. L'important, c'est quand même le jeu lui-même, non?
Vous avez l'âme musicienne et un micro-ordinateur? Avec un fichier MIDI, une carte sonore ou un synthétiseur et de bons logiciels, vous pouvez transformer votre PC en chef d'orchestre. Écoutez.
Le MIDI, tu le connais toi? Non, rien à voir avec la région où chantent les cigales. MIDI, ça veut dire interface numérique pour instrument de musique. Et ça sert tout simplement à faire de la musique avec un ordinateur. Le MIDI, on le trouve souvent dans des logiciels, des jeux et même dans Windows. Ce sont des fichiers qui comportent non pas des sons, mais seulement des instructions destinées à la carte audio. Ainsi, ils prennent peu de mémoire et transitent facilement sur les réseaux. Quand l'ordinateur lit un fichier MIDI, il se transforme en véritable chef d'orchestre. Il va demander à la carte sonore de jouer, par exemple, une gamme en utilisant un son de violon et d'autres notes avec un son de flûte. En superposant plusieurs sons d'instruments, on peut alors simuler un orchestre symphonique ou un groupe de rock. D'une carte à l'autre, le mini-synthétiseur est plus ou moins bon. Les meilleurs, à technologie Wavetable, contiennent des échantillons d'instruments de musique. On en trouve aux alentours de 1500 francs. Le MIDI, ça sert aussi à créer facilement des morceaux de musique si on est équipé d'un clavier et d'un logiciel spécial, le séquenceur. Il sert à enregistrer sur différentes pistes les parties de chaque instrument. Mais pas les sons, juste des ordres qu'interprète le synthétiseur. Déclencher une note, changer d'instrument ou actionner la manette de modulation. Quand on joue au clavier, ce sont ces ordres qui sont transmis au logiciel. On peut ainsi enregistrer successivement différentes parties. Une bonne rythmique, quelques accords, et même corriger les fausses notes. Quand tout est prêt, l'ordinateur va jouer l'ensemble simultanément. Bon, c'est vrai, il vaut mieux connaître un peu la musique. D'ailleurs, de plus en plus de musiciens ont recours au MIDI pour accompagner leurs morceaux. Mais là, plus question de carte sonore. Il faut du matériel professionnel.
Et on change de musique pour quelques secondes, avec une vieillerie qui a 10 ans. Pas très poétique, mais rythmée. Barbarian. Je me souviens de sa publicité dans les revues de l'époque. Elle pouvait faire croire qu'il s'agissait d'un jeu érotique. Déception pour ceux qui croyaient retrouver dans le jeu la dame de la pub, mais pas pour les vrais joueurs qui trouvaient sur Amiga un bon jeu de combat avec quelques gags mémorables. Spectrum Holobyte, l'éditeur, était une firme anglaise qui appartenait à Robert Maxwell, un homme d'affaires contesté, mort ensuite dans des circonstances très bizarres. Il a eu le temps quand même de publier le premier Tetris. Et voilà le gag dont je vous parlais. Les deux parties de votre adversaire sont débarrassées par un saurien débonnaire et méticuleux. Avant de me dissiper dans les réseaux, je vous rappelle que vous pouvez venir me voir sur le web de Canal+. Plus on est de fous, plus on s'amuse. Et puis ça me fait vraiment plaisir quand je vois que nous sommes de plus en plus nombreux à partager les mêmes passions. Allez, bonne soirée.